RFI, bienvenue à vous pour un nouveau journal. Il est minuit à Londres, 1h à Paris.
Mathis Limano.
Démission ce mardi de Justin Welby, le chef de l'église anglicane, était poussé au départ depuis la semaine dernière. Il est accusé de ne pas avoir alerté les autorités alors qu'il était au courant de violences sexuelles commises par un aumônier. La COP29 se poursuit à Bakou. Un rapport a fait grand bruit ce mardi. Il indique que des millions de personnes seront bientôt forcées à fuir leur foyer, la faute au réchauffement climatique. Et puis en Géorgie, manifestation dans la région séparatiste de l'Abkhazie. Les appels à sa démission se multipliaient ces derniers jours. Le chef de l'église anglicane, Justin Welby, a quitté ses fonctions ce mardi. L'archevêque de Canterbury, qui a célébré les funérailles d'Elisabeth II, couronné Charles III, est accusé d'avoir camouflé un scandale d'agression sexuelle commise par un aumônier dans les années 70 et 80. RFI Londres, Emeline Vin.
Je dois prendre mes responsabilités sur le plan personnel et institutionnel, indique Justin Welby dans son communiqué de démission. Le chef de l'église anglicane reconnaît ainsi ne pas avoir suffisamment réagi en 2013 quand il apprend les violences physiques et sexuelles commises par l'aumônier John Smythe sur environ 130 garçons dans les années 70 et 80 en Angleterre, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Un rapport publié la semaine dernière estime que cette inaction a retardé l'ouverture d'une enquête. John Smythe est décédé en 2018 avant la conclusion de celle-ci. En démissionnant, j'unis ma douleur à celle des victimes et des survivants, écrit ce mardi Justin Welby. Les victimes, justement, l'accusaient d'avoir tenté d'étouffer l'affaire et de minimiser leur souffrance. Depuis la publication du rapport, elle réclamait son départ. L'archevêque de Canterbury a d'abord rejeté cette possibilité. À la mi-journée mardi, une pétition pour sa démission rassemblait 10 000 signatures, pétition soutenue par une partie du clergé. Le primat d'Angleterre aurait dû prendre sa retraite d'ici 2 ans. Les modalités de son départ, en particulier la date, restent à définir. Emeline Van Londres, RFI.
En marge de la COP29, le Haut Commissariat aux réfugiés tire la sonnette d'alarme via un nouveau rapport. Il indique que le changement climatique forcera bientôt des millions de personnes à fuir leur foyer. De quoi faire réagir les différentes ONG négociateurs présents à Bakou. Alors que l'objectif principal cette année est de se mettre d'accord sur le montant d'un fonds d'aide à destination des pays en développement. À Bakou, notre envoyé spécial Manon Chaplin.
120 millions de déplacés dans le monde, ce chiffre a fait réagir à la COP29 aujourd'hui. Et cela devrait continuer d'augmenter car d'ici 2040, le nombre de pays confrontés à un risque climatique extrême devrait passer de 3 à 65. Amy Pope, directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations.
Ce qui est vraiment alarmant, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de déplacés climatiques que de déplacés de guerre. Dans certains cas, on pourrait empêcher cela vraiment facilement. Par exemple, aux Philippines, il suffit de construire des logements résistants aux catastrophes climatiques pour que les communautés fragiles puissent rester chez elles, même en cas de typhon.
Pour s'adapter au dérèglement climatique, les États extrêmement fragiles ne reçoivent que 2 $ par personne et par an contre 161 $ pour les pays moins exposés. Un déséquilibre injustifié, déplore Evans Davinjewa, président du groupe de négociation des pays les moins avancés.
Nous sommes les pays les plus affectés par le changement climatique et pourtant nous sommes ceux qui ont le moins contribué au problème. Nos calculs sont simples. Nous avons besoin d'au moins 1 200 000 000 $ pour les 5 prochaines années et ce, rien que pour les 45 pays de notre groupe.
L'enjeu principal de cette COP29, c'est justement de se mettre d'accord sur un montant de financement climatique à destination des pays du Sud. Le précédent objectif, bien plus faible, 100 milliards de $, avait été atteint avec 2 ans de retard. Manon Chaplin, Bakou, RFI.
La COP29 qui se tient cette année en Azerbaïdjan, donc. En septembre 2023, le pays avait repris le contrôle de la région à majorité arménienne du Haut-Karabakh au terme d'une offensive éclair. Et bien ce conflit avec l'Arménie se poursuit devant les tribunaux. Ce mardi, la Cour internationale de justice s'est déclarée compétente pour juger 2 affaires. La première, portée par l'Azerbaïdjan, accuse l'Arménie de nettoyage ethnique, de discours de haine et de propagande raciste. La seconde, pour discrimination raciale, est-elle portée par l'Arménie ? Et cet autre pays du Caucase, la Géorgie, où des manifestations secouent le territoire séparatiste de l'Abkhazie. Manifestations pour le moins inhabituelles. Plusieurs axes routiers menant à la principale ville, Soukhoumi, sont bloqués. En cause, un accord conclu avec les autorités russes qui aurait permis aux entreprises russes d'investir dans le territoire. Daniel Valo.
C'est un accord signé à la fin du mois dernier entre la Russie et les autorités abkhazes qui a suscité la colère de l'opposition et une série de manifestations particulièrement tendues dans le petit territoire du Caucase. L'accord devait permettre aux entreprises russes d'investir en Abkhazie et pour l'opposition, ce texte aurait pu entraîner la vente d'actifs immobiliers sur le littoral de la mer Noire, alors que la vente d'immobilier résidentiel est interdite aux étrangers depuis les années 90. Les manifestations devant le Parlement local ont entraîné l'arrestation de 5 opposants et le blocage des ponts menant à Soukhoumi, la principale ville du territoire. Devant l'ampleur de la mobilisation et le risque de paralysie, les autorités séparatistes ont finalement libéré les 5 opposants. Le territoire qui a proclamé son indépendance au début des années 90 n'a été reconnu à ce jour que par une poignée de pays, dont la Russie. La Russie qui maintient une présence militaire sur le sol abkhaz depuis la guerre de 2008 contre la Géorgie.
Précision Daniel Vallot du service international de RFI. Vous êtes toujours à l'écoute de RFI, les 1h06 en France. L'Assemblée nationale dit non à la partie recette du projet de loi de finances 2025 par 362 voix contre celle de la coalition au pouvoir et du Rassemblement national, battant en brèche un texte largement réécrit par la gauche. Il va désormais poursuivre son parcours législatif à la Chambre haute, le Sénat. Et ils sont 600 à l'avoir signé. Sénateurs, députés et eurodéputés français ont rédigé une lettre à Ursula von der Leyen pour répéter à la présidente de la Commission européenne leur opposition au projet de traité UE-Mercosur, traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Alliance des pays d'Amérique du Sud, qui pourrait être signé la semaine prochaine lors du sommet du G20 au Brésil. Et puis au Niger, une ONG française, Persona Non Grata, la junte au pouvoir a retiré ce mardi son autorisation d'exercer à ACTED, l'agence d'aide à la coopération et au développement. Niamey n'a pas précisé les motifs de cette décision qui s'ajoute à la longue liste de prises de position hostiles à la France. Au moins 35 morts et 43 blessés. C'est le dernier bilan d'une attaque à la voiture Bélier lundi soir en Chine. Le conducteur, âgé de 62 ans, a foncé dans la foule devant un stade de la ville de Shuai dans le sud-est du pays. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme aurait agi suite à un divorce et un partage de biens qu'il jugeait injuste. Cette attaque n'est pas un phénomène isolé en Chine et traduit entre autres un manque de prise en charge de la santé mentale, comme nous l'explique Jean-Louis Roca, professeur à Sciences Po et chercheur au CERI, le Centre de Recherche International.
C'est des phénomènes qui arrivent assez régulièrement, qu'une personne qui effectivement se sent victime d'une injustice et ne sent pas avoir de recours se lance dans ce genre de choses. Alors, contrairement à d'autres pays où les armes circulent très facilement, très souvent, ce sont des vengeances individuelles. Comme ça, on utilise sa voiture, on utilise un couteau. Et ça dénote un aspect particulier de la société chinoise. Il y a dans beaucoup de pays, disons, un accompagnement, des structures liées à la santé mentale, ce qui n'est pas le cas en Chine. Ce qu'il faut mettre aussi en avant, c'est que la société chinoise, depuis la fin des années 90, subit une transformation absolument énorme et les gens, de manière générale, sont sous pression quand ils sont étudiants dans leur scolarité, parce qu'il y a une compétition entre les enfants très tôt pour accéder aux meilleures universités. Il y a une compétition, évidemment, sur le lieu de travail aussi. On fait des heures de travail extrêmement longues, etc., etc. Donc, il y a une tension générale, je dirais, dans la société chinoise, qui commence d'ailleurs à être remise en cause par un certain nombre de mouvements culturels. C'est donc pas étonnant que des individus pètent les plombs, comme on dit, parce que d'un côté, ils sont déjà sous pression et de l'autre, ils ne peuvent pas profiter de structures qui leur permettent d'accéder à une meilleure santé mentale.
Un propos recueilli par Yelena Tomic. Jacques Teixeira écope de 15 ans de prison. Cet ancien membre de la garde nationale américaine avait plaidé coupable dans l'affaire d'une fuite en 2023 de documents classés secret défense. On pouvait y apprendre par exemple que Washington collectait des renseignements sur ses plus proches alliés, Israël ou encore la Corée du Sud. Lui est condamné à 2 ans de prison avec sursis pour agression sexuelle. Peine prononcée ce mardi à l'encontre de l'ex-capitaine de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder. Des faits commis en septembre dernier alors que le joueur de football conduisait en état d'ivresse. Wissam Ben Yedder va faire appel du jugement. Et puis, la Britannique Samantha Harvey à la fête ce soir. La romancière vient de remporter le Booker Prize 2024, prestigieux prix littéraire britannique. Orbital, c'est le titre du roman récompensé. L'histoire, qui offre une réflexion sur le deuil, le désir et la crise climatique, raconte une journée dans la vie de 6 astronautes à bord d'une station spatiale. RFI, il est 1h10 à Paris. Merci d'avoir suivi ce journal.